écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, sommaire de cette édition du vendredi 10 février 2023. Au Togo, le gouvernement rejette les allégations de malversation de la gestion du fonds Covid-19. Le Burkina Faso, la Guinée et le Mali envisagent un partenariat tripartite et veulent la levée des sanctions.
Et ce n'est pas tout. Les trois pays veulent renforcer leur coopération dans plusieurs domaines. Commerce, énergie, hydrocarbures, transport.
Reportage à suivre dans la partie magazine avec notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré. En Afrique du Sud, le président Ramaphosa décrète l'état de catastrophe nationale face à la crise de l'électricité. Le président américain Joe Biden reçoit aujourd'hui son homologue brésilien Lula à la Maison Blanche. À suivre également dans cette session d'information la Minute Éco, au Rwanda, les dépenses publiques augmentent de 2,3% et pour les sports, début aujourd'hui de la phase de groupe de la Ligue africaine des champions. Bonsoir, bienvenue, on commence par le journal. Le gouvernement togolais rejette les allégations de malversation dans la gestion du fonds destiné à combattre le coronavirus. Les autorités affirment que les dépenses sont conformes, régulières et sincères. Jacques Aristide.
D'importantes irrégularités ont été épinglées dans un rapport d'audit de la Cour des comptes, ce qui a provoqué l'indignation dans le pays. Pour l'exécutif toutefois, la Cour n'a pas établi de rapport de malversation ou de fraude. La Cour reconnaît que l'inéligibilité éventuelle d'une dépense peut découler d'un contexte marqué par une extrême urgence due à l'imprévisibilité de la crise. Ceci ne signifie ni que la dépense est fictive, ni que les deux ont été utilisés de manière illégale, voire détournée, ajoute le gouvernement togolais dans un communiqué publié aujourd'hui. Le rapport de la Cour indique que sur 108 milliards de francs CFA dépensés en 2020 du fonds de riposte et de solidarité Covid-19, certains paiements ont porté sur des dépenses non prioritaires ou n'ayant pas de lien direct avec la mise en œuvre des mesures anti-Covid. La dynamique Monseigneur Capozro a également réagi ce vendredi. Ce regroupement de l'opposition invite le procureur de la République à s'autosaisir dans ce dossier. Une fois de plus, le peuple togolais vient d'être trahi par des hommes et des femmes qui n'ont pas sa confiance et Faure Gnassingbé doit en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Conclut la plateforme.
Le Cameroun a restreint les déplacements le long de sa frontière avec la Guinée équatoriale à la suite de plusieurs décès inexpliqués dus à une maladie inconnue qui provoque une fièvre hémorragique, a déclaré aujourd'hui le ministre de la Santé, Malachi Malaouda. Des enquêtes sont en cours et la surveillance épidémiologique a été renforcée avec le soutien d'experts de l'OMS et des centres de contrôle et de prévention des maladies d'Atlanta, ici aux États-Unis. Au stade actuel, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, a déclaré M. Malachi. La Guinée équatoriale a déclaré mercredi dans un communiqué qu'elle avait enregistré une situation épidémiologique inhabituelle au cours des dernières semaines dans le district de Nsok-Nsomo qui a causé 9 décès dans 2 communautés adjacentes en un court laps de temps. L'Afrique du Sud a décrété hier soir l'état de catastrophe nationale pour endiguer la grave crise de l'électricité qui plombe le pays, mais la portée de cette mesure exceptionnelle reste encore floue. Claire Morin-Gibou.
C'est à l'occasion du traditionnel discours à la nation que le président Cyril Ramaphosa a déclaré l'état de catastrophe nationale avec effet immédiat. Le dispositif permet principalement de débloquer des fonds exceptionnels.
Nous savons que sans un approvisionnement fiable en électricité, les entreprises ne peuvent pas se développer, les chaînes de montage ne peuvent pas fonctionner, les cultures ne peuvent pas être irriguées et les services de base sont interrompus.
Le chef d'État sud-africain a évoqué un soutien aux entreprises du secteur alimentaire, particulièrement touchées par les coupures de courant, et la possibilité pour les hôpitaux et les stations de traitement d'eau d'être épargnées par les délestages. La première puissance industrielle du continent manque d'électricité. Depuis des mois, 60 millions de Sud-Africains sont soumis à des coupures quotidiennes programmées jusqu'à 11 heures certains jours. Les pénuries s'étant aggravées depuis l'an dernier.
La justice marocaine a condamné à 2 ans de prison ferme 6 migrants originaires de pays d'Afrique subsaharienne pour leur implication dans de violents heurts lors d'une opération d'évacuation à la mi-janvier de ce campement à Casablanca, a rapporté aujourd'hui la presse locale. Ils n'ont pas eu accès à l'assistance judiciaire, a affirmé le média spécialisé dans les questions migratoires, ENAS. La police avait arrêté ces migrants le 16 janvier à la suite de violents heurts durant l'évacuation de migrants campant sur un chantier d'extension du tramway de Casablanca, la métropole économique du royaume.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Haïti, les écoles qui étaient jusqu'alors un refuge respecté sont désormais prises pour cible et les violences armées. Les visants ont été multipliés par 9 en un an, a déploré l'UNICEF ce jeudi. 72 écoles jusqu'au lycée auraient été visées par des violences depuis le début de l'année scolaire en octobre, selon l'Organisation onusienne pour l'enfance, contre 8 pendant la même période il y a un an. L'ONU s'est récemment alarmée de la violence record des gangs qui a atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies en Haïti. Le président brésilien Lula da Silva est en visite ce vendredi ici à Washington, où il rencontre son homologue américain. Joe Biden entend mettre en avant un engagement partagé des États-Unis et du Brésil pour la démocratie et l'environnement. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
D'après un haut responsable de la Maison-Blanche, les deux dirigeants disent vouloir promouvoir et renforcer la démocratie. Joe Biden a appelé le chef d'État brésilien quand, le 8 janvier, les institutions à Brasilia ont été saccagées par des partisans de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Le Congrès américain avait subi pareille attaque le 4 janvier 2021 par des partisans de l'ancien président Donald Trump. Les relations bilatérales entre les deux pays ont été compliquées pendant que Jair Bolsonaro était au pouvoir. Joe Biden et Lula da Silva veulent avancer sur un sujet que l'ancien président bloquait, la défense de l'environnement. La déforestation en Amazonie a progressé de 60% de 2019 à 2022 lors du mandat de M. Bolsonaro. Son successeur a promis une déforestation zéro d'ici à 2030 dans la plus grande forêt tropicale du monde. Dans le bureau ovale, il sera question du Fonds pour l'Amazonie, un mécanisme financier multilatéral créé en 2008 et géré par le Brésil pour soutenir la lutte contre la déforestation. Lula a relancé ce fonds que son prédécesseur avait gelé.
Le domicile de l'ancien vice-président américain Mike Pence a été fouillé aujourd'hui par le FBI dans le cadre de l'affaire des archives de la Maison-Blanche, ont annoncé plusieurs médias américains. Comme Joe Biden et Donald Trump auparavant, des documents classés et confidentiels avaient été découverts dans sa maison à Carmel, dans l'Indiana, dans le nord des États-Unis, à la fin du mois de janvier. L'ultra-conservateur qui caresse l'idée de se présenter à la présidentielle de 2024 n'était pas au courant de leur existence, mais avait ordonné par précaution une fouille dans ses affaires, d'après son avocat, Maître Greg Jacob. Le bilan des violents séismes survenus lundi dans le sud-est de la Turquie et dans le nord de la Syrie dépasse désormais les 22 000 morts. Dans le même temps, les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent. Mamadou Mfa.
Plusieurs personnes ont cependant été retrouvées vivantes ce vendredi dans les décombres d'immeubles s'étant effondrés en Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a admis que la réponse des équipes de recherche et de sauvetage n'a pas été aussi rapide que le gouvernement le souhaitait, précisant que le nombre de morts dans le pays avait grimpé à près de 19 000. En Syrie, où le nombre de décès a dépassé les 3 300, le président Bachar al-Assad a effectué son premier déplacement dans les zones touchées depuis le séisme, visitant un hôpital à Alep, selon les médias d'État. Le Programme alimentaire mondial a déclaré qu'il était à court de stock dans le nord-ouest de la Syrie, tenu par les rebelles, l'état de guerre dans cette région compliquant les opérations de secours. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a demandé un cessez-le-feu immédiat en Syrie pour faciliter l'aide aux victimes des séismes. Une demande approuvée par le gouvernement syrien.
Le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, a décidé ce vendredi la suspension de ses opérations en Turquie après le séisme, a annoncé un responsable militaire du groupe. Le PKK, qui mène depuis 1984 une lutte armée contre l'armée turque, est classé comme une organisation terroriste par Ankara, les États-Unis et l'Union européenne. L'armée turque conduit régulièrement des opérations contre le PKK en Turquie, mais aussi contre ses bases en Irak et cible les unités de protection du peuple, les YPG en Syrie, alliés des États-Unis dans la lutte contre les djihadistes du groupe État islamique, mais accusés par la Turquie d'être des affiliés au PKK. Et puis, la Russie a mené aujourd'hui une attaque massive avec des dizaines de missiles contre des sites énergétiques en Ukraine, selon Kiev, qui affirme que deux projectiles ont traversé l'espace aérien de la Roumanie et donc de l'OTAN, ce que ce pays dément. Cette nouvelle salve de missiles russes contre l'Ukraine intervient après une tournée européenne de M. Zelensky, qui à Londres, Paris et Bruxelles a exhorté ses alliés à fournir des missiles de longue portée et des avions de chasse. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Claire Morin-Givou.
Au Rwanda, les dépenses publiques augmentent de 2,3% après la révision du budget 2022-2023 pour un montant total de 4,4 milliards de dollars. Le ministre des Finances a précisé que ce nouveau budget est destiné à soutenir la reprise économique qui a permis d'enregistrer une croissance de 8,9% au cours de l'exercice 2021-2022. Des investissements supplémentaires dans l'éducation, la santé, l'éthique et l'agriculture seront au premier plan de l'effort continu du gouvernement pour investir dans l'avenir du Rwanda par le biais de la stratégie nationale de transformation, a ajouté le ministre. Le climat des affaires au Sénégal s'est dégradé de 6,7 points en rythme mensuel au mois de novembre 2022, selon l'enquête mensuelle réalisée auprès des chefs d'entreprise par la direction de la prévision et des études économiques. Cette détérioration est le résultat du pessimisme des chefs d'entreprise des secteurs de l'industrie et des services, selon la DPEE. Le Royaume-Uni a enregistré une croissance nulle au quatrième trimestre après une contraction de 0,3% au troisième, selon de premières estimations lui permettant d'éviter une récession en 2022. Les prévisionnistes l'anticipent néanmoins pour cette année, pendant que le pays traverse une profonde crise du coût de la vie.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacou.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Début ce vendredi de la phase de groupe de la Ligue des Champions CAF.
Deux matchs au programme dans le groupe D. Les Égyptiens du Zamalek sont tombés devant leur public 1-0 face aux Algériens du CR Belouizdad. Le deuxième de ce jour met aux prises les Marocains du Raja Casablanca et les Sud-Africains du Vipers dans le groupe C. Demain samedi, les Guinéens du Oruya reçoivent les Tanzaniens du Simba SC au stade Lassana Conté. À suivre aussi Espérance de Tunis Almerek du Soudan ou encore Petro Luanda JS Kabylie d'Algérie. Les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns font face aux Soudanais d'Al Hilal.
Demain samedi se joue la finale du Mondial des clubs à Rabat.
Elle va opposer le Real Madrid à Al Hilal à 19h temps universel à Rabat. Les Espagnols visent une cinquième couronne mondiale face aux Saoudiens. Surprenant tombeur des Brésiliens du Flamengo mardi en demi-finale, le Real voudra effacer son début d'année 2023 mitigé avec une défaite en Supercoupe d'Espagne mi-janvier et plusieurs contre-performances en championnat. Deuxième de Liga, le Real a déjà 8 longueurs de retard sur le leader, le FC Barcelone. Bien avant cette finale, à 15h30 temps universel, les Égyptiens d'Al Ahly défieront les Brésiliens du Flamengo dans le match pour la troisième place.
Ici en NBA, Los Angeles célèbre LeBron.
LA a encore rendu hommage à LeBron James, tout frais meilleur marqueur de l'histoire. Mais sans lui, ses Lakers se sont encore inclinés 115-106 contre les Bucks d'Indiana Antetokounmpo impérial à 38 points. Comme 48 heures plus tôt, Karim Abdul-Jabbar, précédent détenteur du record, était présent au sein de la Crypto.com Arena pour voir son successeur s'adresser aux fans du centre du parquet et une nouvelle fois entouré de sa mère, de sa femme et de ses trois enfants. « Enfin, j'ai rêvé chaque jour de jouer en NBA et j'étais inspiré par tant de personnes. Je rêvais de faire des passes sans regarder comme Magic Johnson, de faire des fadeaway comme Michael Jordan, de dribbler la balle comme Allen Iverson, d'avoir une coupe afro et de participer à un concours de dunk comme Kobe Bryant », a énuméré King James, ovationné par le public.
La suite des résultats sur les autres parquets de la NBA.
Denver, leader de conférence Ouest, a entamé par un revers à Orlando. Son mini road trip à l'Est 115-104 à Atlanta, Trae Young a surgi en seconde période durant laquelle il a réussi 25 de ses 36 points pour permettre aux Hawks de stopper Phoenix 116-107. Les Suns viennent de réussir le gros coup de la fin du mercato en attirant Kevin Durant, convalescent d'une entorse à un genou. Et justement, Brooklyn a entamé positivement son appel Durant Irving en battant Chicago 116-105.
Page des sports VO Afrique, signé Yakuba Ouedraogo.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les ministres des Affaires étrangères du Burkina, du Mali et de la Guinée étaient en réunion hier à Ouagadougou. Dans le communiqué final, les trois pays ont décidé d'avoir une convergence de vues et faire face aux défis communs, et ce, dans plusieurs domaines, dont la sécurité, la coopération et l'économie. Mais les analystes et observateurs restent dubitatifs en ce qui concerne ce projet sur l'axe Bamako-Conakry-Ouagadougou. De la capitale burkinabé, notre correspondant Lamine Traoré.
La rencontre des ministres des Affaires étrangères du Burkina, du Mali et de la Guinée a duré hier plusieurs heures. Et selon le communiqué final, les trois pays ont relevé la nécessité de conjuguer leurs efforts et ceux des pays de la sous-région et de la région pour faire face à l'insécurité dans la bande sahélo-saharienne. Et ce n'est pas tout. Les trois pays veulent renforcer leur coopération dans plusieurs domaines, commerce, énergie, hydrocarbures, transport. L'axe Bamako-Conakry-Ouagadougou est ainsi créé. Les pays tiennent à leur souveraineté. Olivia Rwamba est la ministre des Affaires étrangères du Burkina.
Tout en encourageant la recherche de solutions d'endogènes aux défis auxquels leurs pays sont confrontés, les ministres ont réaffirmé leur engagement à examiner tout partenariat qui respecte leur souveraineté et répond aux besoins de leur population. Pour ce faire, ils ont réitéré leur attachement au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États.
Néanmoins, certains analystes se montrent méfiants en ce qui concerne l'axe Bamako-Conakry-Ouagadougou. C'est le cas de Karim Diallo, administrateur civil, juriste et analyste politique.
Au plan pratique, il est difficile à ce stade de présager de la viabilité d'un tel projet, car tout dépendra de l'articulation harmonieuse qui en résultera entre cette coopération et les autres organisations communautaires telles que l'UMOA et la CEDEAO. Et tout dépendra aussi des dispositions internes qui seront prises par les régimes de transition en cours dans les trois États pour concrétiser donc leurs engagements.
Crépin Zanzé, un autre analyste politique, estime que la situation économique dans ces trois pays ne joue pas en leur faveur.
Quand on regarde de très près les trois pays, le marasme économique dont ils souffrent et les cancers de gouvernance qui en sont les causes, je me demande comment vraiment la misère peut aider la pauvreté. Ma question peut-être n'a pas grand sens, mais la déclaration finale de la rencontre tripartite est très claire. Il dit que les trois pays, à travers l'axe, ils veulent renforcer leur coopération en matière de commerce, de trafic d'hydrocarbures, de lutte contre l'insécurité, sécurité, tout en annonçant leur volonté encore d'unifier ou d'uniformiser leurs actions pour le retour de chacun des trois pays dans l'instance sous-régionale qu'est la CEDEAO. Quand vous écoutez tous ces trucs-là, ça me paraît un jeu de cache-cache après avoir compris bien d'égarement. Et je crois qu'il faut réfléchir encore doublement pour ne pas perdre de vue des forces qu'on aurait mis à profit pour le bien-être de l'Afrique.
À l'Union africaine et à la CEDEAO, les trois pays ont déploré les sanctions imposées de façon, disent-ils, mécanique et qui ne tiennent pas compte des causes profondes et complexes des changements politiques. Mieux, les pays ont adressé une lettre conjointe à ces organisations. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
L'oncocercose ou cécité des rivières est éradiquée au Niger. L'annonce est faite par les autorités sanitaires du pays à la suite de travaux de plusieurs années menés par des experts de la maladie tropicale négligée. Le Niger devient ainsi le premier pays africain à atteindre cet objectif. D'autres précisions dans ce reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Avec l'annonce de cette élimination, le Niger rejoint 4 autres pays, la Colombie, l'Équateur, le Mexique et le Guatemala, à avoir éradiqué la maladie. Dr Salisu Adamu, coordonnateur du programme national d'élimination de l'oncocercose.
Mais actuellement au Niger, c'était 10 districts sanitaires qui étaient endémiques. 10 districts sanitaires qui représentaient à peu près de 2000 villages où sévissait cette maladie. Maintenant, c'est une fierté pour nous. C'est le moment de danser. Si on a lutté pour éliminer cette maladie de ces villages, si on a permis maintenant à ces populations d'aller au niveau de la rivière, nous sommes un pays sahélien. L'eau, c'est notre vie. Sans l'eau, on ne peut rien faire. Donc, si on a éliminé les obstacles d'utiliser les terres qui sont à côté de ces rivières, c'est une fierté nationale.
La période de pic de cette maladie tropicale négligée au Niger remonte aux années 70, avec plus de 200 000 personnes exposées et environ 5% de cécité qui lui était attribuée. À partir de 1987, la prévalence est passée en dessous du seuil critique retenu par l'OMS. Malgré tout, la lutte s'est poursuivie, la maladie compromettant gravement les efforts de développement des zones affectées. Dr Idi Ilyasu Menassara, ministre de la Santé publique.
Cette terrible maladie empêchait nos paisibles populations à cultiver dans leurs terres, car elle sévissait dans les zones fertiles le long des rivières. Elle a rendu aveugle des milliers de personnes, entravant ainsi le développement agricole des zones affectées. Aujourd'hui, nous sommes heureux de dire que cette maladie semble être éliminée du Niger et nos populations peuvent aller cultiver, pêcher, travailler leur terre en toute quiétude.
Toutefois, cette éradication annoncée par les autorités nigériennes doit être confirmée par l'Organisation mondiale de la santé. Sa représentante au Niger a dit qu'un dossier a été introduit dans ce sens. Docteur Ania Blanche.
C'est une journée historique et mémorable pour le Niger. Et si nous regardons le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur les maladies tropicales négligées, on note qu'il y a des progrès considérables qui ont été accomplis dans la lutte contre les maladies tropicales négligées en général et la lutte contre l'oncocercose en particulier. Malgré ces progrès substantiels réalisés, un bon nombre de cibles fixées à l'horizon 2020 n'ont pas été atteintes. Mais la donne est en train de changer. Aujourd'hui, le Niger vient de soumettre son dossier de demande de vérification de l'élimination de l'oncocercose dans le pays. Ceci est une grande avancée pour la région africaine de l'OMS. Je voudrais vous rassurer que le dossier du Niger pour la demande de vérification de l'élimination de l'oncocercose dans le pays est recevable et sera soumis au comité indépendant de vérification pour son évaluation.
Maladie parasitaire tropicale qui touche les yeux et la peau, l'oncocercose se transmet par la piqûre répétée de simili infectés. Les symptômes apparaissent généralement 1 à 2 ans après avoir contracté l'infection. Les infections oculaires peuvent conduire à des troubles de la vision, voire à la cécité. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Les Zimbabwéens constituent le plus grand groupe d'immigrants d'Afrique du Sud, avec environ 800 000 personnes vivant dans le pays, dont beaucoup depuis des décennies. Mais tous ne disposent pas de documents légaux pour résider dans le pays et occupent souvent des emplois peu qualifiés. Les autorités sud-africaines ont accordé environ 180 000 permis d'exemption ou ZEP au Zimbabwe, mais ont cessé de les renouveler. Une date limite pour ces ZEP a été annoncée. Les Zimbabwéens ont désormais jusqu'en juin pour obtenir un visa de compétences essentielles où ils doivent quitter le pays. Reportage de Yann Willem Bornam, depuis Johannesburg, le récit est de Claire Morin-Gibou.
La Zimbabwéenne Stella Makande, mère célibataire et directrice d'une école maternelle de Johannesburg, vit en Afrique du Sud depuis 14 ans avec son fils Daniel, âgé de 18 ans. Ce dernier considère la nation arc-en-ciel comme sa mère patrie. Maintenant que son visa va bientôt expirer, Madame Makande évalue anxieusement ses options.
Pour moi, le Zimbabwe, c'est plus un pays étranger. Je vais devoir recommencer, je dois commencer à chercher un emploi, je dois commencer à chercher une maison. Donc comme je l'ai dit, si j'avais de l'argent, je préférerais aller ailleurs où je recommencerais et j'espère obtenir quelque chose qui pourra me soutenir, moi et mon fils.
L'Afrique du Sud a annoncé il y a 2 ans qu'elle mettrait fin aux prolongations du permis après juin 2023, affirmant qu'il n'avait jamais été censé être permanent. La migration est une question de plus en plus délicate en Afrique du Sud, qui a connu l'an dernier un chômage record de plus de 35%, alimenté par la pandémie de Covid et des coupures de courant sans fin. Certains militants affirment que si les détenteurs de permis d'exemption du Zimbabwe n'obtiennent pas d'autres visas ou ne quittent pas l'Afrique du Sud, leur avenir sera risqué. Nicolas Nakbuto Mabena est directeur exécutif du groupe d'aide Forum de la diaspora africaine.
Ce qui est très clair, c'est que le 30 juin 2023, s'il n'y a pas de changement d'avis de la part du gouvernement, les gens seront sans papiers. Ils rejoindront l'armée des sans-papiers parce que selon nous, vous avez plus de sans-papiers, y compris les Zimbabwéens, que ceux qui sont en ZEP.
Plusieurs groupes de la société civile ont lancé des contestations judiciaires contre la fin des permis zimbabwéens par l'Afrique du Sud. L'avocat Simba Chitondo représente l'association des détenteurs de permis d'exemption du Zimbabwe.
Il est manifestement déraisonnable de demander à 180 000 personnes de se lever et partir après 13 ans ou 14 ans de séjour légal dans un pays. C'est scandaleusement déraisonnable. Et c'est incompatible avec les exigences d'un résident permanent qui doit être dans le pays pendant 5 ans pour être admissible. Ces personnes sont ici depuis 12 ans. Pourquoi ne leur permettez-vous pas de devenir citoyens à part entière ?
Le ministère sud-africain des Affaires intérieures n'a pas répondu aux demandes de la VOA, mais il s'est engagé à lutter contre le procès. Pendant ce temps, Stella Makande a demandé il y a 4 mois un visa de travail, mais n'a pas encore eu de réponse. Son fils Daniel espère aller à l'université en France, mais dit que l'Afrique du Sud sera toujours sa maison, même s'ils sont obligés de partir.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
L'artiste ivoirien Serge Jean Ariel, plus connu sous le nom d'Ariel Chenet, a été révélé au grand public par Arafat DJ dans les années 2010. Le boss de la Hero Gang était littéralement tombé sous le charme de ce jeune artiste, doté d'une parfaite polyvalence. Absent de la scène musicale depuis plusieurs mois, l'artiste coupé décalé vient de mettre sur le marché un nouvel album dont le titre phare s'intitule Tofolé, un morceau en featuring avec Koffi Olomide. Il était cette semaine dans notre émission TV, Vous et Nous, où il a répondu aux questions de Roger Muntou et Ginny Niwa.
Tofolé marche très bien, se comporte très bien, surtout en cette région, c'était destiné à ça. Et je sais que je suis très satisfait de ce fils.
Ariel, dites-nous un peu, de quoi parlez-vous dans Tofolé?
Tofolé, c'est une danse de résistance, c'est pas forcément significatif, mais c'est une danse qu'on a créée dans les danseurs. Et c'est une danse qu'on fait souvent quand on était en extase de joie. Donc, on dirait que c'est une danse de résistance créée par nous.
Révélée au grand public par Arafat DJ dans les années 2010, quel souvenir gardez-vous du boss de la Eurogang qui était connu partout dans le monde?
Le boss de la Eurogang a marqué ma carrière, je dirais même ma vie, parce que notre relation, quand elle a commencé, a changé le cours de ma carrière, ça m'a propulsé un peu plus avant. Je veux dire que c'est une des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est notre rencontre en fait. Je veux dire que tout le long de notre relation a marqué ma carrière.
Au niveau de votre carrière musicale, est-ce que vous travaillez sur un album en ce moment ou plutôt des singles?
Je travaille sur un album, très très bons albums. Je vais dire depuis les 20 titres, mais j'ai décidé de rendre disponible un EP de 7 titres pour commencer. Étant donné que j'ai vraiment magasiné, ça fait 2, 3, 4 ans maintenant que je suis en production de la scène. Et je suis en train de travailler pour faire plaisir à ce bon nombre de personnes qui m'écoutent dans le monde entier. Donc voilà, cet EP-là va regrouper tous les fans qui sont dans les petits recoins du monde entier. Et les rassembler. Voilà pourquoi on a décidé de faire sortir ces titres et après viendra derrière le gros album.
Merci beaucoup, Henri Alchidé. Bonne chance, en tout cas, dans tout ce que vous faites.
Merci.
Espérons que ça va tellement marcher, surtout que vous avez eu Maupas ou
le
Quadra Coraban. Ça fait grand, c'est trop fort.
Je suis très, très content que les femmes sont restées. Les femmes qui ont cru, malgré que d'autres ne croyaient plus. Les femmes qui ont attendu toutes ces années, c'est le moment. Allons-y, mutons ensemble, et puis fonçons tête baissée.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Georges-Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.